Gabriel Bourdon-Fatal, bonjour.
Bonjour Sonia.
Avant de parler des détails de votre enquête, on va revenir sur le personnage sur lequel porte votre rapport, Dan Gertler, donc homme d'affaires israélien, ami de Joseph Kabila, sous sanction des États-Unis depuis décembre 2017.
Alors en effet, Gertler, qui est présent au Congo depuis bientôt 20 ans, a eu une amitié d'abord avec le père de Joseph Kabila et après avec Kabila lui-même, ce qui lui a permis d'obtenir des contrats miniers, ce qui lui aurait permis aussi d'agir en tant qu'intermédiaire entre des internationales minières et le président Kabila. Et en effet aussi, pendant des années, la RDC aurait sous-évalué des contrats miniers qui auraient été vendus à Gertler, après revendus par Gertler à un prix beaucoup plus élevé. Ce genre d'affaires ont été faites plusieurs fois, donc Gertler aurait pu gagner des millions et des millions grâce à ce pacte et à son amitié avec le président Kabila.
Alors, Dan Gertler est mis sous sanction en décembre 2017. Lui, ses sociétés, certains de ses associés, enfin en tout cas dans les années qui suivent, et pourtant votre rapport montre qu'en fait, il arrive à continuer à faire des affaires au Congo à travers des prête-noms.
En effet, donc c'est Gertler, d'après notre rapport, continuerait à faire des affaires en RDC, c'est-à-dire qu'il continuerait à faire des affaires avec des multinationales, c'est-à-dire qu'il continuerait à acquérir des contrats miniers en RDC après avoir été sanctionné et avant le départ de Kabila, et aussi possiblement qu'il aurait utilisé un réseau de blanchiment d'argent international pour continuer à faire bouger des millions et continuer business as usual.
Mais ce que montre votre rapport, c'est que vraiment, malgré les sanctions américaines, les partenaires de Dan Gertler continuent de faire des affaires avec lui.
En effet, des multinationales nombreuses, qui sont déjà, certaines d'entre elles sont sous enquête dans d'autres juridictions que la RDC pour leur affaire avec Gertler. Glencore, la multinationale suisse, continue de payer des royalties à Gertler, ce qui serait une évasion des sanctions américaines, mais aussi d'autres multinationales comme Sicomine et ERC continueraient, malgré les sanctions, d'être en affaire avec lui au Congo.
Alors l'autre pan, vous l'évoquiez, c'est le blanchiment d'argent. Et là, on est sur une histoire un peu rocambolesque, puisqu'apparaissent après les sanctions toute une série de personnages en RDC proches de Gertler, mais qui ne faisaient pas d'affaires avant en RDC.
Voilà, donc on voit des jeunes hommes d'affaires franco-israéliens qui apparaissent en RDC, qui n'ont aucune trace d'une activité passée en RDC, et qui tout d'un coup obtiennent des contrats miniers incroyables, sans marché public, de manière complètement douteuse.
Votre enquête vous amène à découvrir mais tout un réseau de sociétés, et ça vous amène même à découvrir qu'il y aurait un faux milliardaire russe.
Comme beaucoup d'affaires de corruption présumées, on voit beaucoup de sociétés offshore, de sociétés dans nombreux pays, donc il est très difficile de tracer les réels actionnaires de ces sociétés. Et on voit en effet aussi qu'une société est détenue par un milliardaire russe de 86 ans qui ferait des affaires en RDC. Sauf que notre enquête nous montre que ce milliardaire habite dans un appartement pas très grand à Moscou, qu'il a une Peugeot qu'il a acheté en seconde main en 2015. Donc, point d'interrogation sur le fait qu'il soit milliardaire.
Mais comment est-ce que c'est possible qu'on se retrouve dans ce type de situation où on voit de l'argent liquide circuler de société en société via des banques? Qu'est-ce qui permet en fait une telle évaporation de l'argent?
Comme toujours au Congo, c'est le système financier congolais qui malheureusement permet ce genre de méfaits. On l'a vu dans le passé avec la banque BGFI, qui avait permis de faire circuler de l'argent du président Kabila et de ses proches. Et c'est maintenant la banque Afriland, qui est une filiale du banque camerounaise, qui tout d'un coup est passée d'un statut de petite banque en RDC à une banque qui est parmi les plus grandes. Et cela, possiblement, grâce à Gertler et ses hommes de confiance.
À travers les documents bancaires, vous voyez cette banque finalement obtenir des tas de dépôts, et souvent en liquide, de dizaines de millions de dollars.
En effet, on voit une banque qui aurait été dans le secret de ce schéma frauduleux, qui était consciente que ça se passait dans cette banque et qui aurait permis à des dizaines de millions de dollars d'être versés sur des comptes et de circuler sans aucune due diligence.
Qu'est-ce que vous recommandez donc suite à ce rapport ?
Ce rapport, je pense qu'il y a deux conclusions à avoir, c'est la RDC et en dehors de la RDC. En dehors de la RDC, ça nous montre qu'être sanctionné par les États-Unis, ça ne suffit pas. Il faut que des sociétés, que des multinationales, des banques, des pays qui auraient permis consciemment ou pas, à l'argent présumé de Gertler de circuler, fasse la due diligence nécessaire pour stopper ce genre de malversation et de corruption au Congo. Par rapport à la RDC, qui a vu un changement de régime début 2019, et des promesses du nouveau président Félix Tshisekedi de stopper la corruption, il faut mettre une pression par rapport à ce nouveau président en lui disant il est temps de stopper la corruption en RDC, et cela commence par stopper les gens qui sont des auteurs de corruption qui sont sanctionnés par les États-Unis. Je pense qu'il est temps de lancer des audits sur les contrats de Gertler, de vérifier s'il toujours présent en RDC et comment, et de commencer par un gel de ses avoirs en RDC.
Gabriel Bourdon-Fatal, merci.